Non, pas de déchets à bure. Non, pas de déchets à bure.
Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage de France Inter.
De retour en direct du studio 611 pour une émission réalisée par Pierre Jabot, assisté de Karen Day, avec Jean-Noël Vélan et Alexandre Chémet à la technique aujourd'hui.
Au sommaire de cette émission, la longue lutte contre un centre d'enfouissement de déchets radioactifs à Bure, dans la Meuse, et la reprise de relations diplomatiques entre Cuba et les États-Unis, vue depuis Miami.
L'enfouissement. Partout où il passe, il provoque des rejets, des peurs, énormément d'inquiétudes. Et c'est quelque chose qui se transmet de site en site.
Che Guevara è che Che Guevara è un mito creato.
Che Guevara n'est qu'un mythe.
Et Che Guevara non come merda.
Che Guevara c'était vraiment qu'une merde.
Comme un bruit qui court, que c'est la rentrée et que nous sommes ravis, chers auditeurs, de vous retrouver. Micro à la main et Nagra en bandoulière pour vous faire entendre les voix de ceux qui luttent ici et là-bas, de ceux que l'on n'entend pas, là où la colère gronde, où les alternatives se dessinent, où s'inventent les prémices d'un autre monde. Des voyages, des enquêtes, des portraits, du son dans tous les sens et surtout à contresens, des maquignons de la pensée dominante. Alors pour se mettre en jambes, pour cette nouvelle saison de Turbulence radiophonique, nous avons choisi de nous arrêter sur deux histoires qui bougent et qui coincent. Deux histoires de temps long qui ne passent pas et qui grincent. Chez nous d'abord, reportage avec Antoine sur des déchets et un débat public que beaucoup aimeraient enterrer une bonne fois pour toutes sous l'argile de la Meuse. Et outre-Atlantique ensuite, où Guy nous emmènera retrouver ceux qui refusent d'enterrer la hache de guerre entre Cuba et les États-Unis et qui s'accrochent au micro de leur radio farouchement anticommuniste. Comme un bruit qui court, chaque samedi après-midi sur France Inter, une heure de reportage sur la brèche et sur les ondes pour allumer la mèche de nouveau possible. Comme un bruit qui court, c'est reparti. Bienvenue à tous.
Antoine Chao.
Charlotte Berry.
Guy Vanctil. Comme un bruit qui court.
Hashtag comme un bruit.
C'est un sujet pour le moins sensible, il s'agit de confier à la roche à 500 mètres sous terre et pour des dizaines de milliers d'années, le confinement de 3% du volume total des déchets radioactifs produits en France. Le centre de stockage est prévu dans la Meuse, aux confins de la Haute-Marne, aux environs du laboratoire de recherche de Bure qui travaille depuis 15 ans pour vérifier la capacité de l'argile à stocker ces déchets dangereux.
Pas n'importe quel déchet, les plus hautement radioactifs et les plus durablement radioactifs. Pour être mené à bien, le projet doit passer devant le Parlement. Gérard Longuet, sénateur de la Meuse, le fait donc entrer et adopter en juillet dans la loi Macron sous la forme d'un amendement. Le Conseil constitutionnel juge la procédure irrégulière, le texte est retoqué, les opposants au projet apprécient.
On va dire que c'est quand même une surprise agréable, positive.
Alors là, on approche de Bure. Effectivement, c'est assez désertique, hein. Il y a des champs à perte de vue, c'est assez vallonné. Et c'est 7 habitants au kilomètre carré, Patrick, hein, c'est ça ?
C'est ça, c'est la densité du secteur, donc ça se voit dans le paysage. Hein. Les villages ne sont pas très grands, et donc il y a peu de population, il y a une population vieillissante de surcroît. Hein, donc effectivement, on voit des traces d'activité agricole pour l'instant, hein, mais... On ne sait pas ce que tout ce paysage va devenir à terme.
Ça explique aussi le choix de ce lieu pour implanter donc ce site d'enfouissement, quoi. C'est qu'il y a peu de population, donc peu de résistance potentielle.
Nous, opposants au projet, effectivement, on pense que c'est pas neutre, hein, le choix que... Un endroit peu peuplé avec une population vieillissante, forcément, les décideurs du projet se sont dit qu'il y aura sans doute moins d'opposition, ce sera plus facile à faire passer, etc.
Mais c'était sans compter sur vous, Patrick Deschard, mais d'autres qui ont créé le collectif Bure Stop, hein, c'est ça ?
Oui, alors je ne suis pas dans les créateurs historiques, hein, j'ai rejoint le collectif après sa création, mais effectivement, oui, j'y prends ma part parce que ça nous paraît important de refuser ce projet démentiel. L'idée simplement d'enterrer dans le sous-sol de quel que soit l'endroit d'ailleurs, parce que c'est pas simplement un combat d'habitants du coin qui défendent leur endroit, c'est de défendre l'idée que on ne peut pas enterrer des déchets hautement toxiques et transmettre ce cadeau empoisonné aux générations futures.
Et ça y est, là, on vient d'arriver dans le village de Bure, donc dans le petit village de Bure. C'est combien d'habitants ici ?
Alors, je crois que c'est 70. Faudrait demander aux copains qui sont à la maison. On va le faire bientôt, parce qu'on arrive.
Alors, Bure Stop, c'est aussi un site internet hein, où on peut retrouver toute l'information, donc l'information indépendante. Ici, comme on voit inscrit sur la maison de la résistance, ici, info indépendante. Bure Zone Libre, la maison de résistance à la poubelle nucléaire. Ces jours-ci, d'autant plus qu'il y a le camp VMC qui a été organisé à quelques kilomètres d'ici, hein, donc justement le camp antinucléaire et anticapitaliste. Ça bouge à Bure, oui. Pendant l'été, il s'en est passé des choses à Bure. 86 habitants en 2012, et ça mis à part le retoquage de l'amendement Longuet. Début juin, le rendez-vous 100 000 pas à Bure, une randonnée et chaîne humaine de plusieurs milliers de personnes contre la condamnation de tout ce territoire par l'enfouissement de 100 000 mètres cubes de déchets nucléaires. Après, c'est la revue Silence, excellente revue exploratrice d'alternatives, qui a tenu tout à côté ses rencontres 2015. Et encore, le campement VMC, Vladimir Martinenko, anti-autoritaire et anti-capitaliste, qui a aussi planté ses chapiteaux, organisé des conférences et des rencontres sur la question du nucléaire, de ses déchets et de l'avenir de la planète. Ça méritait d'aller y faire un tour à Bure, à la rencontre des historiques, ceux qui mènent sur place et depuis longtemps cette haute lutte sans jamais baisser les bras.
Corinne François, de l'association Bure Stop 55, basée en Meuse, c'est un collectif contre l'enfouissement des déchets radioactifs.
Alors Corinne, on parle beaucoup de Bure pendant ce mois d'août 2015, mais c'est une longue lutte qui a démarré ici et ailleurs il y a plus de 30 ans, c'est ça ?
Oui, le projet d'enfouir les déchets nucléaires a commencé en 87, où l'État, là, pensait enfouir très facilement des déchets nucléaires, avait sélectionné 4 sites granitiques, sans prévenir vraiment personne, en disant « bon ben voilà, on vient tester votre sous-sol et on veut enfouir des déchets radioactifs ». Et les années 87 ont été vraiment marquées par une opposition extrêmement déterminée, et ce qui fait que en 90, l'État a dû replier, a lancé un moratoire, ce qui s'appelle le moratoire Rocard, et qui a donné lieu à la loi Bataille de 91. Alors cette loi Bataille de 1991, c'est elle finalement qui nous a apporté Bure, puisque la loi Bataille, elle a tiré les leçons des années précédentes en disant les gens ne veulent pas qu'on vienne enfouir les déchets nucléaires chez eux comme ça, donc il va falloir user quelque part de stratagème. Et donc le stratagème, c'était dire, dans cette loi, on étudie 3 solutions possibles pour gérer les déchets nucléaires, soit l'enfouissement, soit les maintenir en surface, soit agir sur la radioactivité. Et là, c'était 3 voies quelque part qui étaient destinées à noyer le poisson. Mais quand nous avons été en 94 concernés directement, puisque l'État est venu prospecter ici, on s'est rendu compte que sur 15 articles de la loi, il y en a 13 qui sont consacrés à l'enfouissement. Et ça nous a paru tout de suite extrêmement curieux. Et d'autre part, il y avait l'idée dans cette loi que on allait faire des recherches et faire un laboratoire de recherche géologique. Donc là, sémantique qui arrive, c'est-à-dire qu'on ne vient plus pour enfouir, mais on vient pour faire des recherches, pour faire un laboratoire. L'enfouissement, on lui a collé le terme de réversible ou irréversible. Donc réversible, ça veut dire que ça fait moins peur. C'est aussi quelque chose, d'ailleurs, dont on parle encore aujourd'hui en 2015, la réversibilité, mais elle n'est toujours pas définie. Donc ça, c'est encore un mot qui est destiné à rassurer les gens. Et puis cette loi, elle apporte l'accompagnement économique. Dans les années 87 à 90, il n'y avait pas de sous à la clé. Donc les élus, les populations ont dit non, on ne veut absolument pas massacrer notre territoire, donc on ne veut pas de ça. Et la loi Bataille, quelque part, nous on appelle ça l'achat des consciences, quelque part elle apporte la légalisation de l'achat des consciences. Et ça c'est quand même relativement grave.
À presque 500 mètres sous terre, ces mineurs d'un genre nouveau forts des galeries expérimentales. Des tunnels pourraient accueillir les déchets les plus hautement radioactifs issus des centrales nucléaires. En 2006, la loi a déjà acté le principe de ce stockage réversible durant un siècle. Depuis 20 ans, cette première mondiale en pleine campagne suscite l'opposition des habitants. Ils ont même installé cette maison de la résistance, sans avoir le sentiment d'être vraiment entendus jusqu'ici.
Corinne François, pourquoi vous vous êtes intéressée à cette question des déchets au départ ?
C'était en 94, une association qui s'occupait d'environnement, Meuse Nature Environnement, s'est intéressée au projet et a tout de suite fait de l'information. On a été nombreux ici en Meuse à découvrir que nos 33 conseillers généraux avaient accepté, sans consulter la population, leurs ouailles, ce projet de laboratoire. Et ça, ça a été quand même une espèce d'électrochoc ici dans le département qui fait que très très rapidement, des collectifs ont été créés. Alors la lutte ici, dans les années 94, elle s'est organisée déjà sur tout le département, parce qu'on ne savait pas où aller atterrir ce fameux laboratoire de recherche géologique. Et puis on s'est mis très très vite en contact avec les anciens sites qui avaient lutté, qui avaient gagné, enfin qui avaient réussi à repousser ce projet d'enfouissement. Donc dans le, il y avait l'Ille-et-Vilaine, il y avait les Deux-Sèvres, l'Ain et l'Aisne. Donc ces gens-là nous ont donné tout de suite de l'information et nous ont dit « Attention, ce projet-là, on a énormément d'arguments défavorables, on va vous donner notre info ». Et l'histoire de la lutte contre l'enfouissement, finalement, c'est quelque part l'histoire d'une lutte qui se passe de site à l'autre depuis 30 ans et qui a concerné, mine de rien, 25 sites en France. Bon, ben, il se trouve que malheureusement, ici, aujourd'hui, on est en lutte ici à Bure. Donc c'est une histoire de milliers de gens qui s'opposent, qui étudient le projet, qui rassemblent de l'information, qui contactent des experts, qui manifestent, qui font des recours juridiques. Donc l'enfouissement, partout où il passe, il provoque des rejets, des peurs, énormément d'inquiétudes. Et c'est quelque chose qui se transmet de site en site.
Le problème de l'enfouissement, mis à part les problèmes techniques aussi, c'est que ça entérine un des problèmes majeurs du nucléaire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait des déchets ? Ouvrir un site comme celui de Bure, de Cigéo, ça veut dire qu'on a trouvé la solution et qu'on peut continuer à développer la filière nucléaire. C'est ça aussi votre inquiétude ?
Oui, et je dirais que c'est l'enjeu majeur. C'est-à-dire que nous, partout où on parle d'enfouissement, notre opposition, elle est fondée là-dessus. C'est, il est absolument impossible de décider comme ça d'enfouir des déchets tant qu'on n'a pas parlé de la production. Et là, c'est vraiment le gros mal français. On a lancé la filière électronucléaire il y a à peu près 50 ans, mais on ne sait toujours pas quoi faire des déchets. Donc, nous avons le sentiment que Bure, ici, on est quelque part au cœur d'un enjeu énorme. C'est que si la filière nucléaire dit « le nucléaire est propre, on sait que faire de tous les déchets qui existent », ça veut dire qu'on peut le poursuivre. Et nous, notre lutte, elle est vraiment basée là-dessus. Et ce que nous demandons aujourd'hui, c'est pas des débats morcelés comme ce qui existe depuis des années, c'est un débat sur la filière électronucléaire dans sa globalité. Notre opposition, elle est vraiment basée là-dessus.
Loi Macron, un amendement qui prévoyait d'accélérer la création d'un projet d'enfouissement des déchets radioactifs à Bure, dans la Meuse, retoqué.
Dans la Meuse, plusieurs centaines de militants écologistes sont attendus dans le petit village de Bure cette semaine. Le lieu doit accueillir prochainement un projet polémique taxé de poubelles nucléaires par les contestataires. Une soixantaine d'entre eux se sont déjà installés dans un campement proche du site.
Alors, Corinne François, là, on est en pleine ébullition parce qu'il y a eu donc cette loi Macron qui a hébergé comme ça un cavalier législatif qui justement autorisait le départ des travaux de Cigéo, donc du site d'enfouissement. Et là, un retoquage par le Conseil constitutionnel. Alors, vous en pensez quoi ? Vous analysez comment ce qui est en train de se passer en ce moment ?
On est très, 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 très contents parce que, en fait, la loi de 2006 de gestion des déchets nucléaires avait prévu un rendez-vous en 2015-2016 pour définir cette fameuse réversibilité. Donc ça voulait dire que le projet Cigéo repassait devant le regard parlementaire. Et ce que cherche aujourd'hui le lobby électronucléaire, c'est arriver à lancer Cigéo sans repasser devant ce regard parlementaire. Depuis fin 2014, Cigéo, on appelle ça un coucou, nous, cherche à s'introduire dans une loi qui n'est pas spécifique et à esquiver ce rendez-vous qui était prévu. Donc, des amendements ont été déposés à 9 reprises au sein de la loi de transition énergétique et de la loi Macron. Et à chaque fois, nous l'avons dénoncé, de nombreuses oppositions ont eu lieu, et à chaque fois, cet amendement a été retoqué. Alors, il se trouve qu'en juillet, Cigéo finalement a réussi à s'introduire dans la loi Macron, ça a été une grande surprise, et comble de l'ironie, c'est passé à la sauce 49.3. Donc c'est quand même incroyable qu'on décide d'un projet pareil, sans aucun débat, et en l'imposant comme ça. C'est totalement antidémocratique. Alors, ce que nous, nous pensons, les collectifs d'opposition et les associations d'opposition, les élus aussi opposés. Nous sommes très contents parce que cet amendement, il a été repoussé, mais on va pas se contenter, nous, d'un débat sur la réversibilité seule. Nous disons depuis le départ qu'il faut absolument connecter l'ensemble de la problématique de la filière, c'est-à-dire la production et la gestion des déchets. Alors que aujourd'hui, on fasse un débat spécifique sur la réversibilité, c'était inscrit dans la loi 2006, mais nous, nous demandons un vrai débat sur la filière énergétique, enfin la filière électronucléaire. Il faut absolument qu'on arrive à ça pour pouvoir arriver à poser ce problème, ce casse-tête phénoménal que représentent les déchets, et se dire d'abord on arrête, on sort du nucléaire, et ensuite on sera déconnecté, on espère, de tous les enjeux économiques, des enjeux de lobby qui feront qu'on arrivera à trouver peut-être une solution moins insensée que l'enfouissement. Alors après, quelle solution on peut imaginer? Même les scientifiques disent qu'il n'y a pas de bonne solution pour gérer les déchets, enfin des experts indépendants. Nous, ce que nous pensons, c'est qu'il ne faut pas tout concentrer sous bure, c'est-à-dire dans Cigéo, et surtout pas enfouir, avec tous les problèmes que ça peut poser, mais maintenir, pourquoi pas, les déchets sur les sites de production. Parce que si on décidait de lancer Cigéo, ça veut dire aussi des problèmes de transport nucléaire qui posent d'énormes risques, il faut le prendre en compte. Donc, un, on arrête tout, on revient à la raison, on change de mode de production énergétique, et ensuite, on voit ce qu'on fait de cet énorme cadeau empoisonné qu'on a produit quelque part et qu'on va léguer aux générations futures, que sont les déchets nucléaires. La filière électronucléaire, elle a de plus en plus de mal à cacher le fait qu'il y a ces déchets ingérables qui existent, et plus de monde est au courant, et plus on espère que la solution collective sera plus sensée, plus raisonnable.
Manifestation anti-nucléaire à Bure, ils sont 1 000 000 selon la gendarmerie, 3 000 selon les organisateurs, venus de toute l'Europe pour dire non au projet de laboratoire d'enfouissement des déchets radioactifs.
Cette problématique des déchets, c'est que c'est la fin de course du nucléaire. Et ils veulent vraiment le régler rapidement, ces gens-là, pour repartir sur une nouvelle construction, des nouvelles générations de centrales nucléaires. Et il faut à tout prix, dans le monde entier, qu'on empêche ça.
Si vous voulez détruire notre nature, il faudra nous passer sur le corps. Non, pas de déchets à Bure, car ici on n'est pas d'accord. Ils veulent produire l'électricité moins chère et se foutent pas mal de la terre. Enterrer les problèmes, il y aurait des conséquences. Et quelle terre laisserez-vous à votre descendance? Non, pas de déchets à Bure. 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 Non.
Radioactive.
Radioactive.
Radioactive. Ce soir, il y a beaucoup de monde à Mandre en Barrois, à côté du camp VMC. On est le lundi 3 août et il y a une invitation à venir prendre un apéritif et manger ensemble les participants du camp, les habitants de Luméville, de Mandre-en-Barrois, de Bure. Et il y a plein de gens qui ont répondu à l'appel, il y a plein de groupes qui se forment sur la petite place. Il y a une cantine du camp qui s'est délocalisée pour venir faire à manger pour tout le monde et on a mangé des super assiettes véganes.
Donc Patrick, c'est 20 ans de lutte ici sur ce territoire. Et 20 ans aussi d'acharnement de l'industrie nucléaire.
Oui, c'est ça, et pas du tout à armes égales, évidemment, on peut s'en douter. Hein. Nous sommes des militants, donc avec nos moyens réduits, avec une détermination qui ne faiblit pas, finalement, depuis 20 ans. Mais en face, on voit qu'il y a vraiment de gros moyens qui sont mis dans la course, notamment énormément d'argent, puisque pour chaque département concerné, donc là, ici, on se trouve à la limite Meuse-Haute-Marne, les deux départements engagés dans le projet, dans la réalisation finalement du projet d'enfouissement, chacun de ces deux départements perçoit 30 millions d'euros par an. Mais c'est déjà commencé, c'est-à-dire que l'argent afflue déjà actuellement, alors qu'il y a pour l'instant, il n'y a aucun déchet nucléaire enfoui dans le sol. On aurait pu voir ça comme une monnaie d'échange par rapport à un effort fait par les populations, pas du tout. C'est vraiment l'achat des consciences là, qui joue à plein pour transformer le territoire et pour rendre ce projet-là irréversible, puisque les paysages sont modifiés.
Alors là, on sort de Bure, et effectivement, là, il y a des installations, et c'est le laboratoire de l'ANDRA, c'est ça, Patrick?
Alors, oui, c'est le laboratoire à l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs. Tout est grillagé, tout est surveillé par des vigiles. Donc pour l'instant, les emplois créés qui ont été promis comme une sorte de monnaie d'échange du projet, les emplois concernent, je ne le dis pas de manière du tout péjorative, mais concernent quasiment uniquement les fonctions de gardiennage et de vigile. Donc on aperçoit la colline qui a été créée par les excavations et donc les bâtiments propres du labo. Et sur la droite, le gros cube, là c'est une nouvelle installation, enfin il y a seulement quelques années, ça abrite les archives d'EDF. Donc c'est un bâtiment qui se veut très intégré au paysage, qui se veut assez joli au niveau de... Enfin, il y a une recherche esthétique.
Un cube, quoi, ouais, c'est ça.
Un cube, un cube un peu bariolé, voilà.
Parce que l'idée, donc, c'est avant l'accord pour commencer à creuser le site CIGEO, c'est de commencer à installer tout autour, à coloniser le secteur par l'industrie nucléaire, quoi. Donc là, c'est EDF qui a installé ses archives ici.
C'est exactement ça. En fait, l'idée de départ, c'était de dire ce ne sera qu'un labo. Mais évidemment, l'enfouissement devrait se faire dans la proximité du labo, évidemment, parce que les résultats des analyses géologiques ne sont pas transposables à des kilomètres. Et donc, en attendant, il y a donc ici un hôtel là, qui est assez récent. Je ne sais pas si tu le vois sur la droite. Là.
Un hôtel-restaurant pour les touristes du nucléaire. Ça correspond à quoi de mettre un hôtel ici?
Oui, alors ce serait surtout pour l'instant pour les personnels qui vont venir travailler sur le site, mais aussi pour les curieux, pour les gens qui se déplacent.
Alors, pour visiter le laboratoire, parce que...
Visiter le laboratoire, éventuellement. Hein. Donc là, on est devant le labo. Je vais faire un petit tour et puis on reviendra.
Et tout le paysage est parsemé d'éoliennes, parce qu'effectivement, il faut donner une image d'énergie renouvelable dans la région.
Qui pourtant n'est pas un site très venteux, mais bon, la justification, c'est exactement ça. C'est de dire, regardez, on investit dans le renouvelable, on s'occupe de la région, on la développe. Tout ça pour mieux cacher ce qui devrait se passer en sous-sol, c'est-à-dire à moins 500 mètres, le stockage de déchets hautement radioactifs. Donc c'est un petit peu une vitrine propre pour cacher l'horreur qui nous attend peut-être dans quelques temps. Sur ta droite, là, on peut voir un autre bâtiment tout à fait design qui a été construit par l'Andra et qui abrite l'Écotech. Donc l'Écotech, c'est un petit peu le recueil de toutes les formes de vie actuelles. Ça peut aller des champignons dans la forêt, etc. Enfin, toutes les formes végétales, animales, etc., qui donc vont être stockées là pour montrer comment c'était avant le passage de l'enfouissement des déchets nucléaires.
Les laboratoires devraient donc permettre d'étudier de l'intérieur l'aptitude du sous-sol à stocker en toute sécurité des déchets hautement radioactifs et à vie longue.
Les plus hautement radioactifs et les plus durablement radioactifs.
Ce pseudo-laboratoire est le prélude à l'enfouissement des déchets radioactifs et de façon irréversible.
Alors moi, j'ai suivi la question depuis le départ, hein, puisque j'étais à la première réunion en préfecture de Bar-le-Duc, lorsque Christian Bataille est venu vendre son projet de laboratoire. Je suis Régine Milarakis, administratrice de la Fédération Lorraine d'Environnement, donc Mirabel Lorraine Nature Environnement. Et je suis aussi militante des collectifs locaux contre l'enfouissement des déchets radioactifs sur le site de Bure, dans la Meuse.
Là, en ce moment, il y a eu une accélération, hein, cet été, donc, et par cette tentative de passer ce cavalier législatif, et avec toutes ces mobilisations qu'il y a eu cet été, notamment le camp VMC qui se tient en ce moment. Vous le vivez comment ?
Nous, on le vit extrêmement bien. Alors, la mobilisation de cet été, pour nous, c'est à la fois une surprise et pas une surprise. On avait déjà pressenti qu'il y avait un regain de mobilisation chez les jeunes. Je ne parle pas des ads qu'on voyait un peu partout. Ce sont des jeunes qui, depuis longtemps, passent à la maison de la résistance à la poubelle nucléaire de Bure et qui passent de manière ponctuelle, mais aussi de manière très constante. Et on avait déjà, au cours d'assemblées antinucléaires élargies, réfléchit à ce que pourrait devenir la lutte à Bure. Ce qui est pour nous un phénomène complètement nouveau, c'est cette organisation du camp VMC, anti-autoritaire et anti-capitaliste, avec un focus sur la lutte à Bure. Enfin, moi, je n'ai pas participé aux premières journées, j'ai plutôt participé aux dernières, mais les échos que j'en ai eus sont extrêmement positifs. Ils relèvent tous, en fait, la qualité des débats qui sont menés depuis le début, la volonté de ces jeunes de ne pas laisser se construire une société qui ne leur convient pas. On voit bien qu'il y a une convergence de lutte qui est extrêmement porteuse parce qu'elle alimente la réflexion et elle montre qu'il est possible, si on se mobilise, de faire échec à des projets qui sont absolument inadmissibles et extrêmement dangereux pour toute la société.
Et vous êtes confiante aujourd'hui ?
Alors oui, on est confiant. On est confiant parce que on arrive au fil des années à montrer que ce projet n'a pas les reins solides. Et donc, on n'agit pas uniquement auprès du citoyen lambda au travers des mobilisations, mais on agit aussi en alimentant la réflexion, eh bien, par exemple, notamment des parlementaires. Et les parlementaires, ce sont les personnes qui ont le pouvoir de décision. Ils auront à s'exprimer de nouveau sur la réversibilité possible ou impossible d'un site d'enfouissement de déchets radioactifs bientôt, puisque c'est dans la loi de 2006 et que l'amendement Longuet retoqué n'a pas permis de freiner le débat démocratique sur cette question de réversibilité. Donc les choses continuent, il n'y a pas de lutte vaine, il n'y a que les luttes qu'on mène qui peuvent gagner. Si on ne les mène pas, on n'a aucune chance d'y arriver. Voilà.
Là, il y a toute une série de signes très favorables qui montrent que le mouvement anti-nucléaire, dans sa diversité, reprend l'initiative. Et cet apport d'expérience via ce camp, qui est un formidable moment de rencontre, d'échange d'expérience. Et je pense que là, on est en capacité de convaincre ici et ailleurs. Parce que les déchets, c'est un enjeu européen. Les victoires qu'on accumulera ici pourront servir aux copains en Finlande, parce qu'ils ont aussi des projets complètement fous, aux copains allemands, à Askorleben et tout ça.
À mon tapis de bon marché, je viens à mon paillasson, encrassé, enfoui sous les déchets, nous aimerions nous laver, nous aimerions nous lever, crier d'une voix pleine le désarroi, mais rien ne sort, je viens à mon carpet, écrasé, méprisé, recroquevillé au fond de la nuit, je m'abîme, un monde à la dérive en fuite, rythmé par les 3-8, un monde en quête d'une accalmie, d'un cessez-le-feu qui ne vient pas, je cherche l'abri, l'imperceptible faille, la brèche, où je pourrais me déplier, m'extirper de là et enfin respirer, car dans ma tête c'est vite une tempête. Le crâne fendu sous un vacarme silencieux. Ici on y naît, on y meurt et on ferme sa gueule. Et mieux vaut ne pas y penser, mieux vaut ne pas se poser de questions. Ici on pense le moins possible, penser c'est se faire mal. Nous avons notre ration de petites humiliations, notre lot de souffrance à usiner. Nous avons nos rivières de déception et nos ciels de dépression à ruminer. Nous voulons oublier, nous voulons nous soulager du fardeau de notre mémoire. Nous sommes fatigués, mais on tourne en rond sans s'arrêter, sans même en avoir conscience. Ici le bout de la chaîne, la roue de l'hamster, gueule cobaye, gueule rebut, gueule sans nom. Ici la vie sans train-train quotidien qui secrètement ne demande qu'à dérailler.
Ça bouge à Bure. Merci à Corinne, François et Patrick Descharmes de la coordination Bure Stop. Merci aussi à Régine Milarakis de Meuse Nature Environnement et Guillaume Blavette du collectif Stop EPR, ni à Penly ni ailleurs. Et rendez-vous début 2016 pour suivre le débat parlementaire qui devrait avoir lieu. Et tout de suite, on part retrouver Guy Ventil à Miami.
À 200 km de l'île de Fidel Castro, une charmante station balnéaire américaine, Miami, est en train de devenir la capitale fiévreuse de l'anticastrisme militant.
La reprise des relations diplomatiques entre Cuba et les États-Unis est désormais officielle.
Une simple lettre qui tourne la page d'un demi-siècle d'histoire. 54 ans de tension, de gel, d'évitement, effacés d'un trait de plume.
We will begin to normalize relations between our two countries.
Ça s'est passé cet été. Voyage officiel, réouverture des ambassades, reprise des relations diplomatiques après plus de 5 décennies de blocage et de blocus, le rapprochement USA-Cuba s'est accéléré. Nous vous avions raconté au printemps dernier comment cette page d'histoire qui est en train de se tourner est vécue à Miami, dans ce bastion des réfugiés cubains de la première heure, alors que les plus jeunes et les entrepreneurs voient d'un très bon œil les perspectives qui s'ouvrent avec la paix entre les deux pays. Pour beaucoup d'anciens anticastristes, bercés au riganisme et aux barbouzeries, difficile de renoncer à combattre leurs plus vieilles et leurs plus intimes ennemis. Si bien qu'en Floride, aujourd'hui, la guerre froide est toujours une guerre des ondes. Et ce combat hertzien se poursuit encore avec deux radios qui émettent 24 heures sur 24 depuis les États-Unis vers Cuba, avec le secret espoir de gagner les Cubains en les attrapant par les oreilles. Première étape, c'est le QG de Radio Marti, la voix de l'Amérique, où il faut montrer patte blanche avant de pouvoir rentrer.
Your destination.
Nous voilà donc à Miami, en Floride. Enfin, Miami, c'est loin de la plage, c'est loin des beaux quartiers. On est dans la zone industrielle, derrière l'aéroport, derrière des barbelés, derrière des grillages et des PC de sécurité.
Hi. Customer parking all the way down. Entrance after the slow sign. To your right.
Thank you.
You're welcome. Leave your cell phone in your car.
Il faut même laisser son téléphone portable à l'intérieur de la voiture. Ah, c'est... C'est impressionnant, mais c'est vraiment un bâtiment fédéral financé par le gouvernement américain dans le cadre de la politique étrangère des États-Unis. Ici, la guerre froide n'est pas finie. Allez.
Buenos días, Cuba. Está escuchando Radio Martí. Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan.
What's your name again, I'm sorry?
Give, G-I-V. Alors, Monsieur García Pérez, vous êtes le directeur de Cuba Broadcasting. Sauf que Cuba Broadcasting ne se trouve pas à Cuba, mais à Miami.
Yes, we act like we were inside Cuba. The goal is to provide news and information to the people in Cuba so that they can make an educated decision as to their future.
Le but, toute l'ambition, c'est de pouvoir apporter des informations au peuple de Cuba pour qu'ils puissent, en toute connaissance de cause, choisir leur futur.
And we're here because the Cuban government doesn't let us be there.
Et si on est ici, c'est parce que le gouvernement cubain ne nous laisse pas être là-bas.
And that has not changed over the last 55 years, I don't even know how long they've been there.
Ça fait plus de 54, 55 ans, je ne sais même plus depuis combien de temps ils sont là, mais ça n'a pas changé depuis. C'est un peu comme Radio Free Europe, qui pendant toute la guerre froide émettait de l'autre côté dans le monde communiste.
It's exactly like Radio Free Europe.
C'est exactement
ça. That's what we do. The only thing is that nowadays, we're not only radio, we have TV, and we're very active on the digital space.
C'est exactement comme ça. Sauf que nous, à la différence de Radio Free Europe, on n'a pas simplement la radio, mais on a aussi la télévision, et aussi on essaye d'être très présent sur les réseaux sociaux et sur Internet.
Yes, radio, we're 24/7.
24 heures sur 24.
Our budget is approximately $27 million. We have over 117 employees.
Plus de 170 employés avec un budget de plus de 27 millions de dollars.
But the change, if there's a will to change, has to come from within Cuba.
Mais tous les changements, s'il y a une véritable volonté de changement, ça ne peut venir que de Cuba.
Muy buenos días.
Bonjour à tous.
Escuchan la primera transmisión de Radio Martí.
Vous écoutez la première diffusion de Radio Martí.
Como un esfuerzo destinado a contrarrestar la histeria de guerra difundida por el gobierno comunista de Fidel Castro.
Pour contrecarrer l'hystérie guerrière diffusée par le gouvernement communiste de Fidel Castro.
Partout sur les murs, on voit les grandes cartes de Cuba. Quand est-ce que ça a commencé, cette radio, alors ?
1985.
Donc là, on est dans le 30e anniversaire.
Yep.
Ah, c'est les studios, là. Ils sont à l'antenne, là.
This show is called El Revoltillo.
El Revoltillo ?
Yeah.
Alors, on rentre, il y a l'animateur qui fait signe.
Una de las cosas que quedó en La Habana, yo no sé, tú te vas a acordar en San Lázaro, ahí en la esquina.
En Infanta.
En Infante San Lázaro, ¿te acuerdas?
La opcionera.
Là, tout ce qu'on entend, c'est diffusé en direct sur Cuba.
Right, it is.
Bueno,
They're reading the different posts that they have on the internet. And so since internet in Cuba is so limited, they do a service by reading these over the radio and television. So people say, if you're interested, call this number or contact this person.
En fait, il y a tellement peu d'internet à Cuba que les quelques personnes qui veulent vendre leur matériel à Cuba mettent en ligne, et ici, cette émission, en fait, ils lisent les annonces de produits en vente à Cuba pour que les Cubains qui n'ont pas accès à internet puissent eux aussi prétendre à acheter ces biens de consommation. Là, c'est les écrans télé. C'est un peu comme une publicité gratuite. Et puis en même temps, Fabien, c'est un moyen de promouvoir le libre entreprise.
And small businesses, exactly.
Qui peuvent petit à petit prendre leur place dans le système communiste cubain.
That's the hope, yes.
L'espoir, c'est ça, hein?
Uh-huh.
Aquí, Radio Martí, el programa informativo para Cuba de la voz de los Estados Unidos de América.
On va laisser les animateurs là qui sont en train de s'amuser tous les deux en faisant leur, un peu leur téléachat. Voilà, un autre studio de radio.
They do the news brief from here.
Et là, c'est la cabine où il y a un journaliste qui va faire les titres. Là, je vois Otro Domingo de Represiones en Cuba. Il y a eu des nouvelles répressions à Cuba ce dimanche. Voilà, les informations de 11h vont être lues.
Hola.
Voilà, bonjour.
Je vous salue. Orlando, encantado.
Voilà, nous voilà au cœur de la salle de rédaction de Radio Free Europe version tropicale. La version tropicale de la radio de la guerre froide, c'est-à-dire le gouvernement américain s'adresse en direct au peuple cubain. Enfin, ça c'est l'ambition. Il se trouve que depuis 30 ans qu'on émet depuis cette radio avec des moyens assez colossaux, je dois vous dire, si les journalistes de France Inter voyaient le matériel mis à disposition de cette rédaction, ils seraient jaloux. Mais sans beaucoup de résultats, puisque vous le savez peut-être, Fidel et les frères Castro sont toujours au pouvoir à Cuba depuis 55 ans. Et à peu près personne n'écoute cette radio à Cuba, Radio Martí, qui, rappelons-le, financée par le gouvernement des États-Unis. Et c'est marrant, là, je vois votre bureau. Il y a des super-héros, il y a Star Trek, il y a Fidel. Qu'est-ce qu'il fait là, lui?
He's always watching what we're doing.
Fidel nous surveille, il surveille toujours ce qu'on fait.
Je suis cubano-américain. I don't know Cuba. I'm not allowed to go to Cuba.
J'ai jamais été à Cuba. En tant que cubain-américain, j'ai jamais pu y mettre les pieds alors que je suis né ici aux États-Unis.
I don't know the homeland of my parents, where they lived, where they grew up. I have that missing from my life.
Ça manque dans la vie de ne pas savoir où ses parents ont grandi, où ses parents ont vécu.
I think a lot of Cuban Americans are missing that part.
Beaucoup de Cubains-Américains, ils ont ce manque en eux.
Let me show you something that I just produced. Testimonies of people inside Cuba talking about the impact that Radio Martí has had on their lives.
Ah, c'est des témoignages de Cubains à Cuba qui racontent l'impact, l'importance qu'a eu Radio Martí dans leur vie.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí a significado algo positivo para...
Bon, je vais vous faire vite, c'est de la bonne vieille propagande où l'on dit qu'on reçoit très bien la formidable Radio Martí à Cuba. Alors pour avoir un autre son de cloche, nous sommes nous aussi allés demander à des Cubains ce qu'ils pensaient de cette radio états-unienne. Radio Martí en version non officielle. Radio Martí, 30 años contigo.
Iroel Sánchez.
Iroel Sánchez.
Cubano.
Je suis cubain.
Hago periodismo, tengo un blog, La Pupila.
Journaliste. Insomne, j'ai un blog, La Pupille Insomniaque. J'ai aussi un programme à la TV cubaine. Je suis le coordinateur du Wikipédia cubain Écurède.
30 millions para las transmisiones de esta emisora.
30 millions, c'est le budget de cette radio-télévision Martí, qui n'est ni regardée ni écoutée à Cuba. Mais ils payent des gens ici à Cuba pour leur fournir l'information. 30 millions, plus 20 millions versés par le département d'État pour ce qu'ils appellent les programmes de développement de la démocratie. Ça fait 50 millions de dollars en tout, qu'ils se partagent entre Miami et Cuba. C'est une création du gouvernement de Ronald Reagan. C'était vraiment un cadeau, un beau cadeau, un business pour les Cubains, nombreux qui vivent là-bas à Miami. Au début des années 90, ils ont créé la télé Martí, en plus de la radio, et maintenant ils diffusent aussi sur le net. Mais la télé n'a jamais été visible à Cuba. Ils avaient installé un ballon, un vrai ballon, pour rapprocher l'émetteur de Cuba. Un cyclone l'a emporté. Après, ils ont utilisé un avion militaire pour diffuser le signal télé. On sait que l'avion ne vole plus, parce que ça coûtait trop cher, 800 000 dollars par an. Il est dans un hangar dans le Kansas, et ça coûte encore une blinde de le laisser là. C'est un gouffre sans fond pour les contribuables états-uniens, et ça ne donne aucun résultat, mais il continue. C'est une escroquerie totale. C'est comme un réalisme socialiste à l'envers.
Radio Rebelde, La Habana.
Y bienvenidos a Radio Martí.
Alors Radio Rebelde, c'était la grande radio de la révolution cubaine. Radio Martí, c'est la voix de l'Amérique vers Cuba et sans trop de succès. Mais il y a un autre front radiophonique dans notre histoire. C'est la voix des affreux de Miami. Ceux qui ne sont prêts à aucune concession. Ceux qui depuis 55 ans rêvent de voir Castro crever la bouche ouverte. Ceux qui dans ce bastion des anticommunistes de la première heure voient un peu leur dernière heure approcher. Ça passe. Ils ont leur radio à Miami, la radio La Poderosa. Et pour y aller, on a donné rendez-vous dans un des QG des Cubains de Miami et des journalistes en mal de sujet, le café Versailles, où nous retrouvons Emilio, le patriote cubain-américain. Tout un programme. Direction donc le café Versailles sur Calle Ocho, dans la petite Havane de Miami.
Le décor un peu kitsch a survécu aux années 60. Au café Versailles de Miami, on n'est jamais aussi près de Cuba et de ses exilés.
Calle Ocho, la cafétéria du Versailles, le lieu de toutes les discussions politiques à Little Havana. Des anticastristes de la première heure, ils affichent la couleur, les Cubains de Miami.
Là, on a l'impression, on est vraiment dans le cœur de Little Havana.
Este lugar es simbólico. Este lugar era un pequeño grocery store alrededor del año 73.
C'est un lieu symbolique. C'était avant une petite épicerie. Ça a commencé en 1973 ici.
Y creció vertiginosamente cuando creció el exilio.
C'est une croissance vertigineuse avec l'arrivée de Cubains de l'exil sur Calle Ocho. Et tout ça s'appelle Versailles.
Y vienen gente de la isla que ha cruzado el mar como Balsero. Comen porque unos les invitan a los otros.
Et tous les anciens qui sont venus de l'île, ou alors ceux qui ont traversé les balseros, les boat people qui ont traversé pour venir jusqu'ici, bah, souvent on les amène ici pour qu'ils mangent la vraie cuisine cubaine.
El Versailles, nosotros los cubanos decimos en el exilio, Versailles lo consideramos el centro de la tierra.
Et pour nous, les Cubains de l'exil, ici c'est le centre du monde. Et ici, est-ce qu'on parle de politique ici?
Eso es lo más fuerte aquí.
C'est le principal sujet de conversation ici, c'est la politique.
Y todos los infiltrados o sembrados para oír los comentarios políticos de Versailles, lo que sí tienen algo en común, todos fingen estar en contra de Castro, porque si no, no entran a Versailles.
Mais par contre, que ce soit tous les infiltrés, tous les agents doubles de la sécurité d'État cubaine qui viennent ici, quand ils sont ici, comme tout le monde, ils font semblant d'être anti-castristes, parce qu'ici, tu ne mets pas les pieds si tu es castriste. Et on va où maintenant?
Vamos a la Poderosa 670.
Alors maintenant, on va aller à la station de radio La Poderosa.
Qui est haciendo historia en estos momentos, donde la prensa más a la izquierda servil a la operación de Castro, el Vaticano, para hacer.
Alors qu'aujourd'hui, la presse de gauche est complètement servile pour vanter le rapprochement entre Castro et Obama et le pape.
Es un reducto, queda La Poderosa.
La Poderosa est un petit réduit, un petit concentré de ce qui résiste contre ça. On y va alors, Emilio, vamos.
Gracias, buenas noches.
Este talentoso español, Carlos, ¿esto se llama?
Rumba, rumba guajira. Espero que les guste, es un son cubano con una letra espectacular dedicada a mi pueblo, que es el de Cuba.
Para mi Cuba querida.
Je chante pour toi, Cuba.
Canto tu son, tu guajira.
Je chante ta musique, ta rumba. Cher Cuba, pourvu que ton tyran meure bientôt. Pour que tu puisses connaître la liberté.
Alors on arrive dans un bâtiment désert à cette heure-ci, il faut dire qu'il est tard le soir. Ascenseur. WWFE La Poderosa 670 AM. Ah, on entend un bruit derrière la porte.
Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Aquí tiene el señor Giff.
Mucho gusto. ¿Qué tal?
Ah, genial.
De Radio Francia.
Déjame mostrarte lo que es nuestro micrófono.
Gracias. Alors, on rentre derrière la console, ça ressemble un peu à Radio France pendant les travaux. On passe une vieille porte, on rentre dans le studio dans l'obscurité. Avec les micros, la console, les écrans. Et combien vous avez d'auditeurs à la Poderosa?
En el último survey, se calculó en el mejor momento del día 60.000 oyentes.
60.000 auditeurs au pic de la journée, c'est ce qu'ont donné les derniers sondages. Et c'est important parce que La Poderosa, c'est la dernière radio cubaine américaine indépendante.
Sí, no, de hecho es la única que queda independiente.
C'est la seule qui soit restée indépendante.
Tiene la característica de que tiene audiencia dentro de Cuba.
Et nous, on est entendu jusqu'à Cuba, dans certaines régions de Cuba où c'est reçu.
Y en este programa no hay nada comercial.
Il n'y a aucune publicité.
Nada más que la cuestión cubana.
On ne parle que de Cuba, bueno, pour les Cubains. Parce que vous, vous êtes arrivé quand?
Yo, en 1963.
En 1963. Et depuis 1963, vous n'avez pas cessé de combattre le régime cubain.
Sí, no hay lugar a duda. No importa los años que pasen, no importa lo apretado que estemos.
Les années qui passent ne changeront rien à ça, on sera toujours en train de lutter.
No nos importa los arreglos internacionales con Cuba comunista, nosotros seguimos soñando en la libertad.
Les accords internationaux qui sont signés avec le régime communiste, tout ça ne nous importe pas. Nous, tout ce qui compte pour nous, c'est la liberté.
À 200 km de l'île de Fidel Castro, une charmante station balnéaire américaine, Miami, est en train de devenir la capitale fiévreuse de l'anticastrisme militant. Miami est devenu un peu le Berlin Ouest du continent américain. À ceci près que le mur ici, c'est la mer.
Et là, et on rentre dans les vieux studios un peu à l'ancienne, la rédaction. Et là, là, il y a plein de petits bibelots, des drapeaux cubains. Ça, c'est nous, les vétérans de la lutte, une photo avec les anciens. Hector Fabian, c'est vous. Luis Posada Carides. Et lui, c'est un personnage controversé de la lutte anticastrice, non?
Sí, claro, una controversia muy complicada.
Certains disent que c'est un terroriste.
Todos los que están aquí de ese grupo, casi todos han sido presos políticos aquí, en Venezuela o en Panamá.
Tous ceux qu'on voit sur cette photo, c'est-à-dire tous vos amis, ont été prisonniers politiques ou bien ici aux États-Unis, ou bien au Panama ou au Venezuela.
L'anticastriste Luis Posada Carriles n'est pas un enfant de cœur. Expert en explosifs, ce féroce opposant au président Fidel Castro a participé à plusieurs tentatives de déstabilisation. Dans les années 60, il émerge à la CIA avant de rejoindre les services d'espionnage vénézuéliens. C'est d'ailleurs de Caracas qu'il aurait préparé l'attentat contre un avion de ligne cubain.
On voit les portraits de Martí partout.
C'est une peinture faite par le docteur Orlando Bosch, qui était un des hommes les plus grands de cette lutte, dentro.
C'est un tableau de Martí qui a été fait par Orlando Bosch, qui était un guerrier anticastriste et qui était doué pour la peinture. Et vous le présentez comme un des plus grands héros de la lutte pour la... C'était votre premier chef dans la lutte pour l'exil, Orlando Bosch.
Orlando Bosch, docteur Orlando Bosch.
Pero c'est pas lui qui était accusé de terrorisme?
Bueno, él es un hombre de los hombres grandes y conflictivos que ha dado esta lucha.
Ah, c'est un homme qui a lutté effectivement. Mais cette histoire d'avion de la Cubana de Aviación en 76,
no,
ça c'est pas vrai.
Mentira, todo eso es cuento, todo
ça c'est des mensonges.
Mire, un ejemplo, le acusan, ¿no? De qu'il tuvo que ver con el avión de Barbados.
Voilà, c'est de la propagande qui fait que Bosch était accusé d'avoir fait exploser un avion de la Cubana en 76, c'est faux.
Sí, mientras más se habla de eso, más se le hace daño al exilio, más se defiende a Cuba comunista.
Ah, donc faut pas tout parler de ça parce que ça fait du mal aux exilés cubains et ça rend service au régime communiste.
Para mí es uno de los cubanos más grandes que ha habido en este proceso.
Mais pour moi, c'est un des plus grands cubains qui ait eu dans toute cette lutte.
Le 6 octobre 76, après son décollage de Caracas, l'appareil explose au-dessus de la Barbade, faisant 73 victimes. Des documents aujourd'hui déclassifiés des services secrets américains confirment sa culpabilité.
D'authentiques terroristes que les amis de notre animateur radio Hector Fabian à l'antenne de La Poderosa à Miami depuis plus de 15 ans. Alors peut-être mieux vaut-il ne pas se fâcher quand on a pour amis Orlando Bosch et Luis Posada Carriles, conspués à La Havane et respectés par tous les farouches anticommunistes. Donc, on marche sur des œufs.
Porque vamos al aire, a la zona.
Él es Ulises.
Hola, ¿qué tal?
Mucho gusto estar aquí.
Encantado.
Voy a aprovechar ahora cuando venga a ti para presentarle a Taimé.
Ah, la musique, c'est balèze, hein. Et, mais moi, je vois, Hector, que vous êtes le fondateur du mouvement insurrectionnel marciano, de Martí, et aussi de la junte militaire pour la liberté de Cuba.
Sí, la idea era un grupo minoritario desde aquí entrar a una provincia ya con contacto y relaciones.
Et l'idée était très simple, c'était d'avoir une petite groupe armée ici qui rentrerait dans une province cubaine ou avec des contacts qui les attendent.
Ocupar una estación de radio, ocupar una estación de policía.
Occuper une station de radio, un poste de police.
Y llamar a la población a las calles.
Et appeler la population à prendre la rue. Ça a marché ou pas?
Ya ese es un terreno en que no podemos entrar.
On n'a pas pu mettre les pieds, on n'a pas pu y aller.
Queda el símbolo, quedan los hombres, pero las condiciones se han ido de la mano.
Ouais, il y avait les hommes qui étaient prêts, mais on n'a pas réussi à réunir les conditions pour pouvoir le faire. Et donc, j'imagine que les rapprochements qui se font entre Obama aujourd'hui et le régime cubain, ça ne vous plaît pas du tout.
Es que no es que no nos guste, es que lo consideramos como que ha sido una falta de respeto a la historia de los cubanos.
C'est qu'on trouve que c'est un manque de respect vis-à-vis de la cause cubaine. Parce que vous êtes un peu la ligne dure, vous êtes les puristes de l'exil.
Histórica y heroica.
Oui, nous sommes la ligne historique et héroïque.
La Poderosa 670 presenta La Séptima Provincia, un espacio militante, nacionalista y cubano. La Séptima Provincia y Héctor Fabián ya está con ustedes.
Ciertamente que sí, mi querida Mariela.
Voilà, on sort du studio. Bon, je vous ai épargné un peu, chers auditeurs, les ratiocinations qui ont duré pendant près d'une heure sur le régime cubain, oppresseur, fasciste, communiste, islamiste. Mais bon, au moins la couleur est annoncée clairement dès le départ du générique. Nous sommes dans un programme nationaliste cubain anticastriste. Et sinon, dans la programmation musicale de cette radio La Poderosa, est-ce que vous passez tout comme type de musique cubaine? Par exemple, Compay Segundo.
Non, eso son temas que se hacen difíciles de contestar.
Ah, ça c'est difficile de faire difficile.
Porque hay como una leyenda de cierta época.
Puis maintenant, il y a une légende autour de ces gens-là.
Si vamos a hablar de música cubana, vamos a hablar de Olga Guillot, que era anticomunista.
Nous, si on parle de musique cubaine, on parle d'Olga Guillot, anticommuniste.
Olga Guillot.
Olga Guillot et pas Omar Aportundo.
Non, lo contrario por completo, lo contrario.
Parce qu'elle est plus proche des communistes, Omar Aportundo. Pour vous, elle est trop connotée castriste.
Jugaron en el equipo de Fidel Castro muchos años.
Voilà, ils ont joué dans l'équipe de Fidel Castro.
Yeah.
Ouais, vámonos. Allez, on y va. On laisse les studios de la Radio Poderosa. Il est très tard maintenant, il est minuit passé. Et les Cubains de l'exil vont se reposer.
Temor a salir de su base, como si fuera un problema salir. Tenía temor a salir de su base, porque los rusos lo iban a ver. Dos, uno, cero, aquí tienen el resumen. Era un cohete americano de imperfecto y se volvió malo, que querían disparar con temor. Cohete americano de imperfecto y se volvió malo. Dos, uno, cero, el cohete al fin salió. Ahora en el aire el cohete se explota y como un tiro en la tierra cayó. Ahora en el aire el cohete se explota y otra vez el yanqui se tocó. Dos, uno, cero, aquí tienen la razón. Era un cohete americano imperfecto y se volvió malo, que querían disparar con temor. Cohete americano imperfecto y se volvió malo, y temeroso no quería salir. Del taller a la base, de la base al espacio.
yo, cohete, el yanqui se le sintió, cohete, y el cohete se cayó, cohete, pero el ruso sí llegó, cohete, por ser malo se chumbió, galarín.
C'était Comme un bruit qui court. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la page Comme un bruit qui court. Laissez-nous des messages et des commentaires, ça nous fera très plaisir.
Après les infos, découvrez La Preuve par Z, une toute nouvelle émission proposée par le musicien, compositeur et improvisateur Jean-François Ziegel. Et nous, on se retrouve samedi prochain à 16h.